Soyez les bienvenus sur le site de l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Alors nous lisons dans Luc 2, du verset 22 au verset 33. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Ils devaient offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit, il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. » C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. »
En une rencontre, en quelques mots, nous avons ici la description d'un homme qui est entre deux temps, qui est pleinement dans son héritage, dans sa culture, dans ce qu'il a reçu. On voit l'importance des rites, des lieux, le temple, mais aussi de ce rapport à la loi, qui le structure, qui le construit. C'est pourquoi aussi ce matin, j'ai rappelé le décalogue. Et puis en même temps, cet homme représente le type même de celui qui se prépare à une rencontre essentielle pour sa vie. Quelque chose d'essentiel. Et je voudrais reprendre quelques caractéristiques de cet homme. La première qui me frappe, c'est qu'apparemment il a tout vu, tout vécu, tout connu, mais il est aussi en manque, ce fameux manque, en attente, dit le texte, comme s'il y avait encore quelque chose à découvrir, à vivre, à voir. Alors j'aime bien ce manque qui me rappelle la côte d'Adam. Vous vous souvenez que Ève a été créée non pas à partir de la poussière et du souffle, mais en prenant une côte d'Adam. Et cela a été interprété par les rabbins pour dire cette chose essentielle que l'être humain va vivre, c'est-à-dire rencontrer et reconnaître Ève, la vie, lorsqu'il a en lui un vide, une absence, un manque, la côte, ce qui permet aussi à l'air de rentrer et de sortir pour les Hébreux. Et Siméon et celui qui, justement, est en attente, en manque, même s'il a le sentiment, ou il est présenté en tant que tel, d'avoir tout vu, tout vécu, il est toujours celui qui est sur une attente de quelque chose, de quelqu'un qui doit venir. On a là un élément essentiel des personnages bibliques qui sont toujours en cheminement, en recherche, parce qu'il y a du manque chez eux, du vide, un besoin, une recherche de sens, une recherche de vérité, quelque chose à faire, quelque chose à dire, quelque chose à recevoir. Une autre caractéristique de ce personnage, c'est qu'il est pieux et juste. Il est pieux et juste, dit le texte. Juste, c'est un mot qui, pour moi, résonne de manière très forte. La justice a un rapport avec le droit. C'est un rapport avec le monde, avec l'injustice, avec la violence, avec une inscription dans ce qui se vit de plus terrible et de plus sombre. La conscience aussi qu'il y a toujours quelque chose à faire, à dire, à s'engager pour un monde qui n'est pas juste. Et que la justice, en tout cas pour Siméon et pour ses personnages, commence par un comportement personnel où l'on est soi-même juste et droit. Ce n'est pas quelque chose réservé à des spécialistes, à des juges, à des prophètes, à des rois, à un messie, mais c'est ici, comme dans bien des personnages de la Bible, l'ordinaire du croyant, la justice. Et puis il est pieux. Alors, c'est un mot avec lequel j'ai parfois du mal, parce que je ne suis pas de milieu piétiste. Mais pourtant la piété, c'est tout simplement pour moi une relation à Dieu. Alors comment elle va se conjuguer ? Est-ce que c'est une prière à chaque repas ou un chant ? Est-ce que c'est le culte hebdomadaire ? La lecture de la Bible ? Un silence quotidien ? Une respiration quotidienne seule ou avec d'autres ? Est-ce que c'est faire une retraite une fois par an ? Est-ce que c'est aussi un comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, avec peut-être ce sentiment de manque ? Est-ce que c'est cette impression que ma vie est portée, accompagnée par quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui me précède ? Pour Siméon, la piété, c'est cette connaissance des Écritures, c'est un enracinement dans une culture, c'est aussi cette présence dans un lieu, dans le temple. C'est pour lui. Mais je crois qu'au-delà de Siméon, la piété, c'est cette conscience ou ce sentiment ou cette volonté que notre vie est aussi portée par quelqu'un d'autre et que nous sommes en relation avec celui que nous nommons Dieu, en tout cas que lui, que je nomme Dieu, souhaite une relation avec moi. Siméon donc est en manque, en attente. Il est droit et pieux, et puis il attend quelque chose aussi pour Israël, ce qu'il appelle la consolation d'Israël. Il y a quelque chose qu'il attend qui dépasse ce qu'on peut espérer de l'activité humaine. Il y a certes ses engagements, mais en même temps il affirme que l'avenir, le devenir, le sien, mais aussi le devenir de son peuple dépend de quelqu'un d'autre, de Dieu. Et il se reconnaît à la fois comme limité dans ce qu'il peut faire, mais en même temps comme porté et en attente de ce que Dieu va donner. Alors ici, c'est l'enfant à la naissance. Comme si dans une naissance et dans un enfant, l'avenir et le devenir étaient posés comme une parole qui va nourrir aussi sa propre vie et en tout cas combler son attente. On a aussi un homme, Siméon, vous voyez, qui est en tension Et pour moi, je retrouve certains adjectifs qui définissent souvent le croyant. On dit pécheur et justifié. C'est-à-dire cette conscience de ne pas correspondre à ce que Dieu veut, et puis en même temps, d'être accepté tel que l'on est. Un paroissien de Casse disait « Je suis fier et humble. » Fier de ce qui a été réalisé, de ce que j'ai fait, il faut aussi le reconnaître. Et puis en même temps humble, parce que je vois aussi tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui reste encore à faire. Un collègue disait « Les protestants sont des anarchistes qui traversent lorsque le feu est vert. » C'est-à-dire à la fois la conscience de devoir bousculer des choses, mais en même temps le respect des règles communes. Et un ami disait « Vous, les protestants, vous êtes des joyeux dramatiques. » Joyeux parce qu'il n'y a rien à prouver, rien à démontrer, rien à justifier dans votre foi. Tout est donné, tout est reconnaissance, d'une tranquillité absolue vis-à-vis de Dieu, presque parfois inquiétant. Et puis en même temps, vous êtes dramatiquement préoccupé par la situation du monde, comme si chaque malheur, chaque catastrophe dépendait de vous directement. Je retrouve un peu dans Siméon cette tension du pécheur justifié, de celui qui est fier et humble, de celui qui est anarchiste et qui s'arrête au feu rouge, de celui qui est joyeux et dramatique. Dramatique. Parce que vous avez entendu aussi sa dernière parole sur l'enfant, sur Marie. C'est un texte, une fois, qui nous avait été donné pour une préparation de baptême, et les parents trouvaient, oh, quand même, c'est pas très joyeux ce qu'il dit aux parents. Ils ont un avenir pas très heureux, surtout Marie, avec cette épée qui va transpercer son... Voilà, on va pas le prendre pour le baptême, mais si, on l'a quand même pris. On l'a quand même pris parce que, bon, on connaît la fin de l'histoire, on sait que la fin de l'histoire de Jésus n'est pas facile, et d'une certaine manière, Siméon fait partie de celles et ceux qui voient, qui comprennent, qui prévoit. Et puis en même temps, cette parole de Siméon ressemble à ces paroles de ces adultes, différents des parents, mais en même temps assez proches des parents, et qui vont dire des choses parfois pas agréables. Siméon annonce que l'enfant va prendre un chemin sans doute autre que ce que les parents ont prévu, ce qui arrive souvent. Siméon annonce que tout ce qui a été transmis, les racines données, la foi ancestrale, l'héritage de David, ne vont être pour Jésus ni fermeture, ni culture du passé, ni nostalgie, mais tout ce qu'il a reçu, il va le transformer, le faire fleurir différemment, le développer. C'est-à-dire, c'est aussi une parole sur l'avenir de l'enfant, votre fils, votre fille. Est un futur génie. Alors souvent les parents, on voit ça, chaque enfant est un Mozart, surtout le mien, surtout les miennes. Mais c'est important d'avoir des personnes comme ça qui sont en mesure de porter un regard à la fois lucide sur les difficultés qui vont venir, parce qu'il va y avoir des difficultés pour l'enfant, il va y avoir des difficultés pour les parents, l'enfant va prendre un chemin qui n'est pas toujours prévu, et en même temps, de porter ce regard plein d'avenir, d'optimisme, il va devenir grand. Et il va faire et vivre des choses bien plus grandes que ce que les parents peuvent parfois s'imaginer. Et les deux paroles sont importantes. À la fois cette lucidité sur un avenir pas toujours facile, mais en même temps cette confiance donnée, fondamentale, qu'il va grandir et aller de toute façon plus loin que le père et que la mère, et c'est tant mieux. Voilà donc Siméon, cet homme en tension avec tout ce qu'il a reçu de culture, de temple, de loi, et puis quelque chose qui se révèle lorsque l'enfant vient, l'enfant qui ne dit rien, mais Siméon parle, donne, transmet, il bénit, et les parents sont étonnés. Quels sont nos manques? La liste serait longue, mais c'est bien de la faire. Quelle est notre justice et notre piété? Où sommes-nous fiers et humbles? Où sommes-nous joyeux et aussi dramatiques? Quelles sont les paroles vraies et difficiles que nous donnons ou que nous recevons? J'avais l'habitude, les années précédentes, pour le dernier culte de l'année, de faire une sorte de revue de presse de l'année qui vient. Vous savez, on prend sur Internet les 14 événements importants de l'année. Parfois, il y en a même les 12. On sent une certaine culture qui apparaît. Et puis de choisir dans ces événements, à la fois mondiaux, mais aussi ceux de l'Église, ou personnels qui marquent, qui blessent ou qui édifient. Alors, je ne l'ai pas fait cette année, parce que je crois que je n'ai pas eu le temps. Mais en préparant ce message sur Siméon, je me suis dit, quels sont les 3 événements qui vous ont marqué cette année? À la fois dans les manques, dans la justice et la piété, dans la fierté et l'humilité. Alors, spontanément, j'en ai 3 qui sont les miens. Vous en aurez peut-être 3 aussi différents. C'est vrai que j'ai été marqué par le massacre des enfants dans une école. Pour 2 raisons. C'est hélas un des massacres du monde. Peut-être qu'il était proche de Noël et me renvoie le texte biblique à la figure, le texte de Matthieu avec le massacre des innocents. Mais parce qu'il s'agit d'enfants, mais il s'agit aussi d'une école. C'est-à-dire, il s'agit, à travers l'enfant, de l'avenir, du devenir, de la parole de Siméon. Et puis, à travers l'école, il s'agit aussi de la société. Alors, peut-être en tant que Français, républicain, je suis très attaché à cette école qui m'a construit, mais l'école est quand même ce lieu, pas que symbolique, où se construit un être humain, où se construit le futur d'une société. Un sage disait, plantez une graine pour vous nourrir dans 2 ans, plantez un arbre pour dans 20 ans, plantez une école pour construire dans 50 ans. Le deuxième événement qui m'a marqué, alors c'est pas encore très gai, mais bon, voilà. C'est le décès de Marc, dont j'ai fait les obsèques. Et Marc était un copain d'enfance avec lequel j'ai joué jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis il a eu une maladie, une sale maladie, comme on dit. Il avait 2 mois de moins que moi, il est décédé. J'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner et de présider ses obsèques. C'est un événement difficile, mais en même temps qui me renvoie à ma propre vie, à ma propre mort, à l'essentiel aussi que j'ai à vivre. Et souvent, la mort, comme celle de Siméon qui se prépare, il dit « laisse-moi mourir » ou « laisse-moi m'en aller », est aussi une parole de vie, d'espérance, de résurrection pour celles et ceux qui restent. Quels sont mes manques? Quelle est ma justice et ma piété vis-à-vis de Marc? Où ai-je la fierté de ce que j'ai vécu avec lui et en même temps l'humilité de ce que j'ai raté? Et puis le troisième événement qui est plus heureux, c'est une catéchumène de là où j'étais avant, sud-ouest, qui vient de sortir son 4e livre. Alors là, c'est la fierté. En me disant que ce qu'elle avait vécu en église, au catéchisme aussi, l'avait construit, l'avait aidé. Et de voir ainsi quelqu'un de plus jeune que soi, déjà sortir autant de livres, écrire, créer, permet alors d'entonner le cantique de Siméon, « Laisse-moi maintenant, Seigneur, aller en paix. » Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que la parole de Dieu vous accompagne aujourd'hui et toujours.